Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 5 décembre 2023 et c'est l'épisode 345. 345. On va parler un peu de réseaux sociaux pour commencer cet épisode avec Elon Musk qui s'est exprimé dans une interview, hein, suite d'ailleurs au mouvement de retrait d'entreprises qui font partie des plus gros annonceurs publicitaires sur X, ex-Twitter, de manière assez virulente. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'envisage vraisemblablement pas de se remettre en question ou remettre en question sa position qui amène, on peut le rappeler, à laisser des contenus nazis sur le réseau social. Évidemment, les annonceurs publicitaires, ça leur plaît pas beaucoup. Ça ne s'arrange pas, donc, chez Tonton Elon. Et puis, on a aussi plein d'infos sur la semaine de l'intelligence artificielle. Décidément, le rythme ne faiblit pas. Il se passe toujours autant de choses dans ce domaine, et notamment donc celui de l'intelligence artificielle générative. Je suis Guillaume Vendée, avec une petite voix légèrement abîmée, avec la gorge un petit peu embêtée, mais rien de grave, podcasteur technophile enthousiaste. Et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ?
Mais écoute, très bien. En plus, il y a le trailer de GTA 6 qui vient de sortir.
Aïe. Eh ben écoute, tu veux en toucher un mot tout de suite ? Toi, t'es un gros fan de GTA 6,
pas
Guillaume ?
Pas du tout.
Ah bon, bah, mince alors.
Non, tu sais que j'ai même pas joué à GTA 5, j'ai joué à GTA 4, même pas.
D'accord.
Par contre, le 6 a l'air vraiment sympa, ouais. Parce que manifestement, il se passe en Floride, c'est un truc qui ressemble énormément à la Floride. Et donc, ça a l'air délire comme il faut, quoi. Il faut dire que la Floride, c'est fertile, comme environnement.
Tu m'étonnes. Bah écoute, moi, je me rappelle de GTA comme étant le jeu qui faisait l'objet des journaux, radio et télé quand j'étais tout petit, en disant que c'était un jeu qui mettait en avant la violence et que donc les jeux vidéo étaient sur une dérive et surfaient sur le fait qu'il y avait beaucoup de violence. Je crois qu'on a beaucoup de recul là-dessus maintenant. Hein,
bon. Oui, carrément. Par contre, cet épisode, vas-y.
Non, sur le trailer du sixième GTA, oui. Est-ce que tu veux en toucher
quelques
mots ? Non,
pas plus que ça. Cet épisode ne sera pas un spécial GTA 6 à la déception générale, j'imagine. Donc voilà, comme il reste trois auditeurs, on va pouvoir être en petit comité, puis faire ça tranquillou, on va se détendre.
Il reste la crème de la crème. Écoute, merveilleux. En attendant et avant qu'on aborde les news de cet épisode, Guillaume, quelques citations, en particulier pour Sylvain, Gaël, Maxime Letellier, Jimmy Valente et Romaric Brillant, que vous connaissez bien, qui d'ailleurs crée des jeux et qui les met à disposition lui-même sur sa propre page Patreon ou même gratuitement comme Le Village, qui nous soutenait, qui a suspendu son soutien et qui revient. Donc écoute, merci beaucoup de revenir faire un petit bout de chemin avec nous. Merci beaucoup à celles et à ceux qui prennent le temps de venir envisager un soutien, même temporaire et même plafonné, à Tech Café, en se rendant sur patreon.com/techcafé. En faisant ça, vous contribuez à financer le podcast et puis vous vous garantissez qu'un épisode arrivera deux fois par semaine. En plus, en contrepartie, vous pouvez bien évidemment, vous le savez maintenant, écouter les épisodes sans la pub grâce à un flux du podcast qui vous est personnellement réservé et pas partiellement réservé. Ce serait assez problématique, c'est bien évidemment personnellement. Et puis en plus, évidemment, vous pouvez soutenir d'autres créateurs. Donc par exemple, si vous voulez soutenir à la fois Romaric Brillant dans la création de ces jeux et nous pour Tech Café, vous pouvez vous créer un seul compte qui va soutenir ces deux créateurs que nous représentons sur la même plateforme. Un petit mot pour citer Conny 3 qui a déposé un podcast. Décidément, j'ai du mal ce soir, Guillaume, qui a déposé un avis. Sur Podcast Addict, il nous dit un super duo d'enfer pour des épisodes toujours plaisants, avec une bonne dose de vulgarisation, contient également des extraits naturels d'humour et de bonne humeur. Ça se mange sans fin et on en redemande. Guillaume, j'ai eu une remarque, figure-toi. On m'a dit, Guillaume, c'est dommage, parfois il y a Guillaume Poggiaspala qui lance des blagues et toi tu rebondis pas, t'enchaînes. Alors, je vous avoue, parfois, c'est pas toujours facile de mener le rythme d'un épisode, d'essayer de se concentrer sur le sujet suivant, d'arriver à faire les bons enchaînements qui vont bien et de pas raconter de bêtises, accessoirement, et d'essayer d'être aussi drôle que Guillaume et de rebondir à ses blagues. Alors, ne m'en voulez pas.
Non,
c'est aussi pour le rythme d'épisode.
C'est pas du stand-up non plus, attends.
Oui, mais je crois que de plus en plus, je sais pas si c'est que les gens sont à court de retour et donc qu'ils ont tous choisi de nous parler de l'humour ces derniers temps, mais vraiment, j'ai plein de retours de personnes qui disent, ils passent juste un bon moment parce qu'ils se marrent aussi en écoutant évidemment des sujets sérieux et avec un format qui est bien approprié, comme on aime à le rappeler dans un format podcast. Mais il s'amuse. Et ça, bah, ça fait plaisir. Il rit, il sourit. Donc, on vous fait des petits clins d'œil. On vous remercie. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez commenter sur techcafé.fr et puis discuter entre vous et avec nous sur Discord. Le serveur est accessible sur techcafé.fr/Discord et on parle pas que de tech. L'environnement est hyper agréable, hyper sain, hyper chaleureux, familial, oserais-je dire. Le lien, comme tous les autres liens, sont dans les notes de l'épisode. Évidemment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil régulièrement aux notes de l'épisode qui vous permet déjà de retrouver les sources des sujets qui sont abordés dans les épisodes de Tech Café et qui ont permis de construire la veille pour parler des sujets tech de la semaine. Mais il y a aussi une manière de les rédiger qui est bien propre à Guillaume Pogjaspala qui prépare le conducteur des épisodes et ça mérite le détour. Guillaume, justement, sans autre forme de procès, on se doit de tenir au courant nos auditeurs. On avait déjà expliqué durant la dernière semaine qu'Elon Musk était un peu chafouin et qu'il n'était pas d'accord de voir des annonceurs publicitaires tourner la page justement de la publicité sur X, anciennement Twitter, parce que des tweets peu recommandables se retrouvaient juste à côté des publicités. Il a pu s'exprimer sur le sujet dans le cadre d'une interview notamment, hein, Guillaume.
Ouais, alors il y a des écus Musk cette semaine, hein. Et donc déjà il y a le Cybertruck qui est sorti par exemple, et il est énorme. C'est un vrai petit morceau de dystopie hein, que tu peux avoir tout à toi pour entre 60 et 80 000 dollars quand même, hein, donc c'est super cher. Et donc ça fait de lui un caprice pour gens riches hein, qui veulent rester tout confort, même en se prenant des fusillades scolaires ou en roulant sur des clochards. Le truc aurait autant sa place dans Cyberpunk 2077 que dans Mad Max,
ah oui,
s'il y avait encore des centrales électriques dans Mad Max d'ailleurs. Mais bon, de toute façon... Il déçoit un petit peu les fans, hein, puisque en fait, il a une autonomie qui n'est pas terrible, tout en étant remarquablement cher quand même. Mmh. Et bon, c'est clairement pas le Cybertruck qui était le plus gros titre cette semaine, pourtant. Pour
t'as vu au passage qu'il a du mal à ouvrir la portière hein. Je sais pas si t'as remarqué sur les
non,
vidéos qui ont circulé. En fait, tu peux ouvrir en posant ton doigt sur une partie bien particulière de la portière. Et donc, comme il y avait le fait qu'il délivrait les premiers Cybertruck à ceux qui en avaient fait la réservation, il ouvrait la portière, mais en fait, on sent qu'il se galère. Donc, décidément, la gestion des portières et des poignées des portières des véhicules Tesla, c'est pas la Rolls, on va dire.
Mais je sais bon, pas. Moi, dans mon AX, j'y arrivais très bien, mais bon, je dis ça comme ça. En tout cas, Elon Musk a donné une interview au Dealbook Summit du New York Times, hein, mercredi dernier. C'était avec Andrew Ross Sorkin, une interview qui a duré presque 1h30, hein, ce que vous avez sans doute, voilà, vous avez sans doute déjà vu passer ça des dizaines de fois, hein, puisque c'est là qu'Elon s'est illustré par son attitude, on va dire, bravache vis-à-vis des gros annonceurs qui font plus de pub hein, sur X depuis sa sortie sur les Juifs, dont on avait parlé dans le dernier épisode. Hein. Bon, voilà, on va pas revenir dessus en détail. Ça part des doux pourtant. Franchement, Andrew Sorkin, qui est lui-même juif américain, a commencé à l'interroger là-dessus, voilà, bon, un truc qui d'ailleurs le touche personnellement, hein, vu le profil des gens qui ont soutenu à fond Musk après c'est donc ses tweets hein, et ses tentatives maladroites de clarification. Et c'est d'autant plus naturel que Musk était allé faire un tour en Israël, après voilà, bon, ça pouvait être facilement vu comme une tentative de se rattraper un petit peu, ou comme un coup médiatique, hein, Justin, c'est long. Pendant toute l'interview, et il a un truc autour du cou d'ailleurs, c'est une plaque sur laquelle est gravé « Bring them home », c'est-à-dire « ramenez-les à la maison », quoi, sous-entendu « les otages ». Donc ça lui a été donné par un couple de parents, il a dit qu'il le porterait aussi longtemps qu'il y aurait des otages. D'ailleurs, Elon semblait faire preuve d'une authentique contrition. Hein. Il dit que le premier tweet est une grosse gaffe et qu'il regrettait d'avoir répondu à ce type, qu'il aurait dû être beaucoup plus clair dans ses propos dès le début. Ça a commencé réellement comme une tentative de reconnaître ses torts, hein, vraiment. Et là, à 3 minutes, en plein milieu de cette phase de contrition, ça part totalement en live. Ça sort de nulle part. Andrew, il lui demande comment il vit ça, tu vois, les critiques... Puis les annonceurs qui fuient la plateforme, et à la seconde où il prononce le mot annonceur, advertisers, Musk sort de ses gonds. Il dit bah, qu'ils arrêtent. Je veux pas qu'ils fassent de pub. Si quelqu'un essaye de me faire chanter avec la pub, avec l'argent de la pub, qu'il aille se faire foutre. Je cite. Et il le répète bien plusieurs fois pour qu'on soit bien sûr d'avoir bien compris. Tout en faisant un petit salut à Bob Iger, président de Disney, qu'on imagine tout à fait charmé. Hein. Alors, tu verrais la tronche du journaliste.
Mais il est gêné, hein. On sent qu'il sait pas où se mettre.
Alors Andrew, il est sans voix, complètement. Pendant plusieurs secondes, il comprend pas. Et bien d'ailleurs, c'est assez normal de ne pas comprendre, hein, c'est assez normal de réagir comme ça quand on voit un mec se mettre une balle dans chaque pied avec un grand sourire comme ça, tiens, c'est bizarre. Et il continue, hein, d'ailleurs, toujours sérieux, et Elon, il dit est-ce que s'il continue, les annonceurs, hein, ils vont tuer la compagnie, et que le monde entier le verra. Et donc, quoi, Andrew lui-même se pose la question, et il pose la question. Pourquoi le monde entier blâmerait Disney, Universal, Apple et tout ce que la planète compte de grandes marques pour la mort de X? Pourquoi ne pas blâmer son CEO et son propriétaire? Et quand bien même, Elon pense-t-il vraiment que les gens vont boycotter Disney parce qu'il aurait tué X ? Bah, apparemment, oui. Parce que manifestement, Musk surestime un tout petit peu l'importance de X dans la vie du monde. Je te rappelle que X, il est utilisé par 120 millions d'utilisateurs chaque jour, et pas des milliards. Hein. 120 millions, c'est beaucoup, hein. Mais enfin, moi, c'est pas non plus des milliards. Et quelle est la fraction de ces 120 millions pour qui X a vraiment une importance capitale ? Au point de boycotter des marques par militantisme, ou au point d'influer sur l'opinion qu'elles ont de ces marques. Je crains qu'Elon s'avance un tout petit peu. De toute façon, cette rhétorique du chantage n'a pas de sens. Hein. X, c'est un business, hein, et son business model principal, c'est la pub. Il propose des espaces publicitaires que les marques choisissent ou non, selon qu'il convient à leur demande ou pas. Et puis, c'est tout. Des marques seraient... Enfin, d'où les marques seraient obligées de souscrire un service pour soutenir la liberté d'expression.
Ah, c'est très... C'est,
enfin, genre, c'est pas une ONG, je sais pas, il n'y a pas de loi, enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est encore une fois le propos, hein. X est le champion de la liberté d'expression. Les grandes marques veulent le museler en faisant pression. Alors que non, c'est juste une victimisation classique. Hein. Si ton réseau n'a pas le profil qui convient à Disney, bah, Disney ne vient pas et puis c'est tout. Et c'est rien de dire que les envoyer se faire foutre, c'est pas ça qui va les encourager à revenir. Après cet épisode, on est à grosso modo 10 minutes d'interview sur 1h30. Je vous laisse imaginer. Là. Alors en fait, il y a énormément de trucs dans cette interview. Donc, pendant la grosseur.
Ah, je ne l'ai pas regardé en entier. Hein. Je reconnais que moi, j'ai vu la séquence qui a buzzé, mais je n'ai pas été faire mon travail jusqu'à regarder l'intégralité de l'interview.
Bah, je l'ai vu presque en entier. Je crois qu'à un moment, je me suis endormi.
Mais
le truc, c'est que c'est assez difficile.
Qu'est-ce que tu ferais pas pour le bien de l'information dans ta café, Guillaume ?
Écoute, mais bon, il y a des moments lunaires, il y a des moments vraiment incroyables. Alors par exemple, il y a un moment, bah, un petit peu après, assez, pas très loin plus tard, ça part en semi-psychanalyse. Il lui parle, tu vois, Andrew lui parle de cette tempête dans sa tête, c'est la tempête dans ma tête, oui. Je rigole pas, il a évoqué une tempête dans sa tête, une tempête intérieure, une tempête dans sa tête dans un de son autre podcast, Elon Musk. Et du coup, ça part un échange introspectif. Elon aurait 10 000 idées à la seconde, mais cette tempête est sauvage, ce n'est pas une tempête joyeuse, tu vois. Tout ça a été amplifié par son enfance difficile, j'invente rien, hein. Tout est dans l'interview. Il a dit aussi que c'est une faiblesse que de vouloir être aimé, lui il n'avait pas cette faiblesse, tout ça. Bon, il insiste aussi sur l'importance pour lui, hein, de faire de l'humanité une civilisation multiplanétaire. Il est beaucoup évidemment question de SpaceX et de Tesla et de Starlink, hein, aussi, parce que voilà, Starlink ça accroît encore beaucoup l'importance stratégique, voire géostratégique à Elon Musk, malgré lui, hein, d'ailleurs. Parce que Starlink va servir à partiellement remettre une connectivité à Gaza, mais uniquement pour les ONG reconnues. Tu vois, par exemple, il y a toujours des choix comme ça dans lesquels il est embringué alors qu'il n'a pas forcément envie. Donc Starlink choisit, il a un pouvoir dessus, tu vois, comme dans l'épisode du drone ukrainien, hein, et Elon se retrouve au milieu de considérations qui le veuillent ou pas, qui sont vraiment très compliquées, quoi. En plus, Starlink a le monopole de fait, hein, l'Internet par satellite, et ça fait beaucoup de choses pour une personnalité qui est sans filtre et qui est super impulsive, hein, comme Musk. Donc il lâche aussi, au détour d'une discussion, que Neuralink d'ailleurs est prêt à commencer des tests sur les humains, il lâche aussi qu'il n'est pas fan de l'idée de syndicat. Il n'est pas fan de l'idée. Syndicat, moi non, je trouve pas. Je trouve que c'est une vision trop confrontationnelle. Bon. Il parle d'OpenAI, il appelle Super Closed AI, voilà, l'IA super fermée. Il affirme qu'il monte d'ailleurs en disant qu'il n'utilise pas de données protégées par les droits d'auteur, bon, ce qui est malheureusement horrible. D'ailleurs, XAI peut profiter de données Twitter, hein, pour lui c'est un avantage de ce point de vue-là. D'ailleurs, il dit qu'on aura des IA qui sont plus intelligentes que les humains d'ici 5 ans, peut-être venant de XAI et entraînés sur des milliards de tweets. Je pense qu'on a une bonne chance. Il y a donc une très longue interview dont on ne sait pas trop quoi faire en réalité. Hein. Elon se comporte comme s'il n'était pas au courant de comment fonctionne sa propre boîte. Il a viré à coup de pompe dans le Dersh ses principales sources de revenus sans proposer aucune alternative. De fait, d'ailleurs, la question psychologique, hein, parfois de l'interview, la teneur psychologique de l'interview, elle n'est pas si étonnante puisque Elon Musk ne se comporte pas comme un CEO rationnel. Aucun CEO rationnel ne va dire à ses principaux clients d'aller se faire foutre. Aucun ne va même risquer de mettre en péril son image de marque, en tweetant sur des coups de tête et sur n'importe quel sujet. Non, quand t'es un CEO rationnel, je sais pas, le plus incroyable que tu fais, c'est tu fais une photo du cookie que t'as au petit déjeuner et tu l'envoies sur Instagram, c'est tout. Je veux dire, c'est... Bon, et là, bon, en plus, il fait ça sans aucun backup. Je veux dire, il a aucun plan B. Et du coup, la rentabilité de X, là, elle est très mal, parce que les gros annonceurs ne reviendront pas. Donc X va essayer d'attirer plein de petites et moyennes entreprises pour remplacer un petit peu, mais ça suffira pas. Donc X doit le plus vite possible transitionner, hein, passer à une autre source de revenus. Donc ça peut être plein de choses en fait. Hein. Ça peut être les commissions sur les paiements de sa future super app. Ouais, ça peut être les retombées éventuelles d'IA qui seraient pondues par XAI et qui pourraient monétiser d'une manière ou d'une autre. Mais sans les fonds de Musk, X il est fini, terminé. Donc il pourrait évidemment, Elon pourrait le maintenir en vie le temps de changer radicalement de business model. Mais ça va prendre des années. Questionné sur l'éventuel décès de X, d'ailleurs, Elon ne dit pas spécifiquement, explicitement, qu'il allait subventionner. Mais bon, la faillite de X, ce serait quand même la perte sèche de plus de 40 milliards de dollars, donc vraisemblablement, il va essayer encore quelques temps de transformer ça en quelque chose d'autre, quoi.
On ne peut pas lui reprocher de faire des contorsions pour maintenir ses clients. On ne peut pas le reprocher d'être de mauvaise foi juste pour faire en sorte que les grands annonceurs assurent la plateforme. J'ai l'impression, c'est fou, hein, mais finalement, ce qui transparaît aussi de cette interview, de ce que t'en restitues et de ce qu'on peut voir, c'est une forme de sincérité, de sincérité maladive en fait, hein, mais d'une forme de sincérité. Au point que j'ai l'impression qu'on pourrait imaginer que cette expérience l'amènerait à faire un mea culpa, à changer la manière dont il s'exprime, à mieux temporiser ses propos. Et j'ai même l'impression que, vraiment, concrètement, non, parce que même le fameux Pizzagate revient dans ses propos, Guillaume.
Oui, oui, le Pizzagate. Alors rapidement, si vous avez oublié ça, vous avez beaucoup de chance. C'est l'histoire de cette pizzeria à Washington qui s'appelle donc le Comet Ping Pong et qui aurait été, selon une théorie complotiste qui est née sur 4chan, qui a fait fureur hein, chez une frange de la droite américaine en 2016, ça aurait été une couverture pour un donjon pédophile. Donc il y aurait eu dans le sous-sol une sorte de donjon, voilà, où les clients prestigieux, dont Hillary Clinton, hein, bien sûr, auraient payé pour abuser des enfants. Une théorie de saugrenue, quand même, démentie des multiples fois. Hein. Il y a un gars qui y allait avec un fusil pour libérer les enfants, je cite, et qui a trouvé que dalle, pas plus que les flics hein, qui sont intervenus, ni quiconque d'autre, journaliste ou ce que tu veux. Le Comet Ping-Pong, c'est une pizzeria. Et bon, depuis plus de 6 ans, cette histoire, c'est un des premiers avatars de complot pédo-démocrato-sataniste. Il y a un truc qui est même antérieur à QAnon. Et pourtant, périodiquement, ça ressort. Et là, prétendument, un des experts qui a enquêté et démystifié le Pizzagate aurait été emprisonné pour pédophilie. Bon, évidemment, ça la fout très mal. Sauf que ce mec, qui s'appelle James Meek, c'est pas un expert du Pizzagate qui a démystifié le truc. C'est juste un mec qui a mentionné la théorie dans un rapport sur la désinformation russe. Et il y a un autre mec, qui est un homonyme britannique, qui a aussi parlé de la Pizzagate dans un bouquin. Il s'appelle aussi James Meek. Mais donc James Meek n'est pas l'expert qui a démenti le truc. Donc c'est une rumeur qui a été étudiée et débunkée par plein de gens, plein d'organisations différentes. Le lien entre Meek et le Pizzagate a été lancé par Ron Watkins cet été. Et Ron Watkins, on le soupçonne fort d'être derrière le cul de QAnon. Et ça tourne, mais ça tourne dans les milieux conspi normalement. Dans les milieux un petit peu, bon voilà. Jusqu'à ce qu'Elon Musk retweete un mème là-dessus. À 2 reprises, hein, au moins, c'est pas un truc isolé. Tweet qu'il a, je crois, effacé depuis. Mais là, on s'interroge, qu'est-ce qui se passe par la tête de ce gars? Il oublie littéralement que la moitié de Twitter le suit. Littéralement, il est suivi par la moitié des utilisateurs totaux de Twitter. Ça le dérange pas de booster à mort la visibilité d'une vieille théorie conspi délirante? Il se fout de l'image que ça donne de lui, que ça donne de la boîte, quand même. Même Walter Isaacson, au micro de CNBC, le dit, hein, Musk se tire une balle dans le pied en relayant ce genre de truc. Et ça va commencer à faire plus de balles que d'orteils bientôt, hein, donc c'est difficile. Mais il peut pas s'empêcher, il peut pas se taire. Et le pire, c'est que désormais, il en fait une posture. C'est-à-dire la posture, c'est « je suis libre, moi j'ai de comptes à rendre à personne, je dis ce que je veux, quoi qu'en pense l'establishment, le système ». Et le monde verra, le public sera juge. C'est textuellement d'ailleurs ce qu'il dit dans l'interview à propos de la mort éventuelle de X. Le public sera juge. Ce qui est marrant, c'est que c'est une rhétorique populiste, en fait. On est anti-système, on représente le peuple, qu'on prend un témoin, qu'on laisse juge. Et c'est quand même marrant de voir un CEO, un PDG d'une grosse boîte, adopter cette approche. Je sais pas trop si ça va être une stratégie business vraiment efficace.
C'est à démontrer. Au passage, hein, je voudrais reclarifier l'enchaînement que je faisais. Il faut souligner quand même que ces partages de Pizzagate, de même autour du Pizzagate, sont antérieurs à sa prise de parole en interview. Donc voilà, n'allez pas tirer des conclusions sur la manière dont j'ai présenté les choses. Peut-être qu'on... j'en doute, hein, mais peut-être qu'il va un petit peu changer son fusil d'épaule sur ses prises de parole, Elon Musk, on ne sait pas. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un à qui on pense de manière assez récurrente dès qu'on voit Elon Musk dériver, et Guillaume. Et c'est d'ailleurs assez régulièrement dans Tech Café, on se pose un peu la question. Tu avais déjà dit toi-même, d'ailleurs, dans de précédents épisodes, à quel point c'était quand même curieux, c'est le fait qu'elle reste envers et contre tout la boss de Twitter, la boss à la botte d'Elon Musk, mais la boss quand même, Linda Yaccarino, connue pour ses liens dans le milieu notamment de la publicité, qui était là aussi pour redonner une image de sérieux et de confiance auprès des investisseurs. Guillaume, pourquoi est-ce qu'elle est toujours en poste, cette personne?
Linda, je sais plus. Linda a été choisie avec grand soin pour amener avec elle son énorme
super profil.
D'adresse. Eh oui. Attends, elle vient de NBC Universal, c'est la responsable de la pub, je veux dire, un des plus gros carnets d'adresses du monde. Et ces gros publicitaires-là, qu'elle connaît bien, elle avait réussi à les faire revenir. Et Elon les a envoyés se faire foutre, littéralement. Alors, ça, donc elle pourrait être en pétard. Je veux dire, ça serait très très normal. Mais si c'est le cas, c'est pas du tout visible dans son mémo aux employés, hein, qui reprend exactement le schéma narratif de Musk et qui dit, voilà, essentiellement, nos principes ne sont pas à vendre. Précisément, elle dit, notre mission chez X est audacieuse, c'est être une plateforme ouverte, sans censure de la pensée, une plateforme qui fournit aux gens des informations et la liberté de, de se faire leur propre opinion. Nos principes n'ont pas de prix, ne seront jamais compromis, et quels que soient leurs efforts, nous ne nous laisserons pas distraire par des critiques secondaires qui ne comprennent pas notre mission. Waouh.
Donc, elle va plus loin, hein, même. Elle va aussi jusqu'à rassurer les collaborateurs de X du fait qu'ils fassent partie d'une entreprise qui, comme d'autres entreprises d'Elon Musk, sont là pour changer le monde, hein, quelque part. Elle replace X comme étant une des entreprises de la galaxie Musk.
C'est ça. Et d'ailleurs, du coup, alors c'est magnifique ça, parce qu'on reprend exactement la même rhétorique que Elon Musk. Donc, on renverse la situation. On s'érige en victime alors que c'est nous qui faisons la connerie. C'est la base, ça. Hein. Au lieu de se justifier et de s'amender, on se radicalise sur sa position et on transforme ses problèmes en principes. Comme ça, on est inattaquable. C'est les principes. On moralise le truc, même, surtout, hein, si c'est complètement hors de propos, par ailleurs. Et on transforme nos problèmes de fonctionnement en croisade. Donc, on s'appuie aussi, exactement comme tu dis, sur les autres boîtes d'Elon Musk, parce qu'elle, elle marche encore pas mal. Donc, Linda, elle est immensément fière de mener cette compagnie, qui fait partie d'une constellation unique qui change le monde. Voilà, SpaceX, il a révolutionné l'accès à l'espace. Mais SpaceX, une cousine. Alors nous aussi, on est révolutionnaires, forcément. Neuralink change des vies. XAI va créer une IA surhumaine. Alors, c'est pas possible que dans cette famille, X soit juste le petit cousin boiteux, myope, sourd et un peu attardé. Non, lui aussi, il a une mission, tu vois. Mais voilà, alors, elle est convaincante, hein. On croirait presque qu'elle est amoureuse. Franchement, elle a trouvé Musk franc et profond, qui a parlé sans phare de sa vision du futur et qu'il faut prendre le temps de digérer la portée et l'importance de tout ça, hein, de toutes ces choses dont nous sommes tous partis. C'est ce qu'elle a dit, les étoiles dans les yeux, comme ça. Bon, elle est à fond, donc soit elle est convertie, soit elle gère parfaitement sa communication, elle, mais dans les deux cas, c'est pareil. Ils n'ont aucun plan. S'ils parlent de leur croisade morale, machin, c'est qu'ils n'ont aucun plan B. Linda, c'est une businesswoman, dont on vient de faire disparaître le business, tout simplement. Et pour le moment, bah, elle fait très bien comme si tout était sous contrôle, mais on va voir combien de temps ça dure.
Ouais. Je me demande si elle n'a pas un contrat pluriannuel qui, tu vois, est de plus en plus fort au niveau de la rémunération, avec le temps passant, avec peut-être, je ne sais pas, l'indexation de certaines actions d'entreprises d'Elon Musk. J'en sais rien, mais il y a forcément des motivations fortes. Pour autant, je ne vois pas quelles motivations fortes sont suffisantes pour bousiller une carrière, parce que, comme tu l'as déjà dit dans d'autres épisodes, ça ressemble quand même au fracassage de carrière contre un mur à vitesse grand V pour Linda Yaccarino. C'est finalement un peu triste. On va pas parler que de Twitter et d'X, on va parler aussi un petit peu de Meta, Guillaume, avec Meta, dont l'abonnement qui permet de se protéger de la pub pour Facebook, en l'occurrence, est identifié comme un vrai bien luxueux, d'après l'Europe, Guillaume.
Et oui, on en a parlé plusieurs fois, pour se conformer à la réglementation européenne, Meta va proposer une version payante sans pub de ses services, en plus de la version classique. Et là-dessus, ces offres sont très diversement appréciées selon les pays, mais en général, c'est considéré comme cher. Je rappelle que c'est 10 balles par mois pour accéder à Facebook et Instagram. C'est même 13 sur iOS, et bon, évidemment, perso, jamais de ma vie je paierai 12 balles pour accéder à Facebook, hein, à moins d'y être obligé pour des raisons professionnelles, avec un pistolet sur la tempe et ma femme prise en otage. Les trois à la fois, c'est nécessaire. Donc voilà, sans compter que c'est un début, hein. Les prix vont augmenter à partir de mars 2024, donc si vous liez d'autres comptes Meta ou Instagram, ce sera 6 euros par compte supplémentaire.
C'est hors de prix. Donc, il sera 13 euros sur iOS et sur Android, hein, d'ailleurs. Enfin là, pour le coup, on est tous logés à la même enseigne, c'est vraiment si tu passes par les App Store.
C'est ça, si tu passes par un App Store, effectivement, bah, tu payes la commission de l'App Store. Donc il sera possible en 2024 de payer plus pour Facebook et Instagram que pour Netflix, sauf si vous consentez à voir des pubs. Alors bien sûr, perso, je trouve que c'est du vol qualifié, je sais pas si je suis représentatif. Bon, sans doute pas, et pourtant, des associations de protection de consommateurs attaquent Meta sur ces tarifs-là, hein, qui sont abusifs, ils font de la protection de la vie privée un produit de luxe que beaucoup de gens n'ont pas les moyens de s'offrir. Pire encore, Meta garantit que les données personnelles de ceux qui payent ne seront pas utilisées pour du ciblage publicitaire, mais il garantit pas qu'elles seront pas récoltées et utilisées pour chose. Hein, parce que bon. Et bon, c'est la BEUC. La BEUC, c'est le Bureau européen des consommateurs qui attaque Meta en disant que donc, les prix pratiqués sont tellement hauts qu'ils continuent en fait à enfreindre la loi européenne sur la protection de la vie privée parce que le tarif serait dissuasif et excluant. Parce qu'en Europe, et c'est pas glorieux, 20% des gens sont au bord de la pauvreté, ou carrément dedans, Et pour eux, bah, du coup, protéger sa vie privée, bah, c'est pas possible. Et même d'ailleurs pour les gens qui sont en situation moins précaire, hein, ça peut monter vite parce que 10 balles, c'est par personne. Donc par famille, bah, ça monte. Avec le nombre de services qui passent ou vont passer à l'abonnement mensuel, bah, la facture, ça peut monter très très vite. Et à ce train-là, dans un futur proche, même une famille de classe moyenne devra faire des choix. C'est-à-dire que ça pourra pas, tu ne pourras pas protéger ta vie privée sur toutes les applis, tout simplement. Et ça, c'est inacceptable. Donc dans cet argumentaire, le bug est rejoint par le NOIB, qui est une association autrichienne, que je ne sais pas ce que ça veut dire NOIB, mais c'est pas grave, qui souligne qu'il faut agir vite parce que c'est un phénomène qui est clairement déjà en train de se produire. TikTok va faire exactement pareil que Meta, nul doute que X suivra, donc voilà. Ah ben non, il n'y a plus de pub sur X, pardon, oups.
Oh si, il y en a de la pub sur X, et crois-moi, il y en a beaucoup. Et alors, pas de grande qualité, croyez-moi. Tu sais, les produits à la Temu et compagnie, là, on commence à les voir fleurir.
Mais ça va pas s'arranger.
Ça va pas s'arranger. Je sais pas ce qui vaut mieux, en fait, hein, des grands annonceurs à côté de tweets nazis ou... Ah non, les tweets nazis, ils sont là quand même. Bon, allez, on va arrêtons de taper sur X. On l'a suffisamment fait. On termine par contre de taper sur Meta, Guillaume, qui est
c'est
pointé du doigt pour avoir ignoré de manière assez répétée des plaintes de la part d'enfants sous l'âge de 13 ans concernant des usages sur Instagram.
Oui, Meta n'est pas en très bonne posture en ce moment, parce qu'il est donc attaqué par 41 États pour son laxisme dans la protection des jeunes. Mmh. Il y a une nouvelle plainte qui vient d'être déposée contre lui pour son laxisme à faire appliquer ses propres règles en ce qui concerne ces mêmes jeunes. Sur le papier, c'est pas du papier, mais enfin, vous voyez bien, vous pouvez pas être sur Facebook ou Instagram si vous avez moins de 13 ans. En pratique, je pense que c'est tout ce qu'il y a des quantités d'adolescents qui se débrouillent pour avoir un compte quand même. Et Meta le sait très bien, pas moins que les autres, et il ferme les yeux là-dessus. En tout cas, c'est ce qui ressort des documents qui sont joints à cette nouvelle procédure, hein, qui donnent des chiffres un peu plus précis. 1,1 million de signalements d'utilisateurs trop jeunes entre 2019 et le premier semestre 2023, et seule une fraction ont eu des suites. Précisément, en 2021, Meta aurait reçu 402 000 signalements, qui auraient conduit à seulement 164 000 suspensions de comptes. En fait, Meta ignore systématiquement les signalements pour les comptes qui ont ni bio ni photo. Bon, en interne, Meta aurait même des graphiques qui quantifient la pénétration de Facebook chez les 11-12 ans. Le nombre de comptes de gamins serait de l'ordre de 4 millions. Meta aurait une liste de 2 millions de comptes en attente d'action sur le sujet. Pas assez d'employés, il paraît. Bon, bah, écoute, je sais pas. Bien sûr, Meta se défend et affirme que voilà, les mesures ne sont ni précises ni représentatives. Et ne dépeigne pas la réalité. Bon, c'est encore une mauvaise nouvelle pour Meta, hein. Si ça aboutit, évidemment, ça sera encore des millions et des millions d'amendes, des centaines de millions, bien sûr. Mais on va peut-être finir quand même sur une note positive,
oui.
Puisque Meta met à disposition des chercheurs une nouvelle API, la Meta Content Library, qui permet de récolter des données publiques sur Facebook. Ça, voilà, c'est des trucs qui existent déjà, public, mais tu peux le faire à de très grandes échelles et tout automatisé, tu peux faire des études là-dessus. Tout ce que tu peux récolter, c'est déjà public, mais évidemment, c'est une API, tu peux le faire algorithmiquement. C'est gratuit, et c'est uniquement pour le secteur académique. Ça sera à disposition d'un panel d'universités pour commencer, et à terme, les grands instituts de recherche pourront fouiller facilement les données de Facebook.
C'est une vraie demande. C'est une vraie demande, ça, de la communauté scientifique,
sûr.
Pour pouvoir documenter ce qui se passe, quand même.
Tout à fait. Il faut plus de transparence, donc les universités en sont très preneurs, c'est un effort louable, mais ne nous voilons pas la face, hein, c'est un effort qui est largement consenti sous la pression du DSA, qui requiert ce genre d'outils pour que les chercheurs puissent analyser les risques systémiques sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est dans les textes. Donc, par exemple, la diffusion de contenus illégaux, l'entrave à la liberté d'expression, etc. Alors, boudons pas notre plaisir, hein, et voilà, il y a forcément... Bah, c'est quand même très bien, il y a énormément besoin de ce genre d'outils, comme tu dis. Donc, les pouvoirs publics s'intéressent de plus en plus à l'impact des plateformes ou du numérique en général sur les sociétés. Il faut bien qu'elles se basent sur des études, hein, et les études, ça a besoin de données, de beaucoup de données. En particulier, les études sur les réseaux sociaux, sur l'impact sur la santé mentale, hein, puisque c'est là-dessus que se reposent des... Plein de procédures en cours, donc il faut plus de données fiables, et c'est l'espoir d'avoir un jour un éclairage plus juste de comment ça marche et quels effets ça
a. Eh ben tant mieux, ça reste une note, quand même concrètement positive, parce qu'on peut entreapercevoir le fait que va continuer à être documenté l'usage et peut-être même les effets des réseaux sociaux. Donc très bien, on va mettre de côté cette rubrique sur les réseaux sociaux. On a plein de sujets autour de l'intelligence artificielle. Guillaume, une première étude déjà concernant l'utilisation d'Internet, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est intéressant. On parle souvent de l'effet délétère des réseaux sociaux sur la santé mentale, en l'occurrence chez les jeunes, dans le cas du procès contre Facebook/Instagram, tout ça. Et plus largement, on parle aussi pas mal d'addictions aux réseaux sociaux, pour les jeunes et les moins jeunes, hein, d'algorithmes addictifs sur TikTok, etc. Bon, le numérique, le réseau, les jeux vidéo, ouais, tout ça nous bouffe-t-il le cerveau? C'est un petit peu ce qu'un chercheur d'Oxford, de l'Oxford Internet Institute précisément, s'est demandé. C'est un mec qui s'appelle Andrew Przybylski. Je le prononcerai qu'une seule fois, n'insistez pas. Donc le mec
n'est pas... entendu, ça n'a pas enregistré, tu peux le redire?
Andrew Przybylski, voilà, je pense. C'est P-R-Z-Y, je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc le mec n'est pas à sa première tête sur le numérique, hein, c'est un habitué. Il avait fait une sur le jeu vidéo, où il avait montré que c'était pas les jeux violents qui rendaient violents, mais les jeux difficiles. C'est la difficulté qui augmente l'agressivité des joueurs, ça on peut le noter, on peut le
Elden
mesurer,
Ring,
Dieu. Mais pas la violence du contenu. Donc ouais, j'ai peur du nombre de tueurs en série qui a été créé par Elden Ring ces derniers temps. Bon.
Ou les jeux From Software de manière générale.
Ouais, en fait ils sont dangereux. Mais bon, bref, Andrew, on va l'appeler Andrew, s'est demandé si l'apparition d'Internet dans les foyers avait un impact sur la santé mentale mondiale. Rien que ça. Donc il s'est mis en regard des études sur le bien-être psychologique dans 168 pays, pour des gens entre 15 et 89 ans, je crois, et c'est entre 2005 et 2022. Donc il a aussi utilisé des stades de pénétration d'Internet dans 202 pays entre 2000 et 2019. En fait, il y a deux études. Il y en a une sur le bien-être mental, donc là, sur le bien-être mental, et par rapport à l'apparition d'Internet entre 2000 et 2020, et un sur la santé mentale, sur la période de 2000 à 2019. Dans les deux cas, il n'y a rien. Que dalle. Nada. On voit parfaitement la proportion de gens équipés d'Internet passer de 0 à 60, voire 80%. Ça dépend quoi. Il y a Internet fixe et Internet mobile, mais bon, dans les deux cas, évidemment, là, vous vous en doutez, c'est passé à 80%, quoi. Mais pour ce qui est du sentiment de satisfaction de sa vie, c'est le calme plat. 50% pour toutes les années. Le nombre d'occurrences perçues d'événements négatifs a légèrement augmenté, mais c'est si faible que c'est pas significatif vu les incertitudes. Et c'est pareil pour les événements positifs, c'est encore plus faible. En ce qui concerne les chiffres de la dépression, de l'anxiété, de l'automutilation, donc ça c'est le volet santé, hein, ça change pas, entre 4 et 5% pour l'anxiété et la dépression, et c'est même en très légère baisse pour l'automutilation. Super. Donc en résumé, si on tient compte des incertitudes statistiques inévitables, hein, Internet et le mobile ont changé absolument que dalle à notre santé mentale, en tout cas si vous êtes un adulte. Parce que bon, il faut quand même faire attention, la première étude sur le bien-être ne concerne que les gens au-dessus de 15 ans, donc ça dit pas grand-chose sur les ados, et la seconde couvre les enfants effectivement de 10 à 14 et de 15 à 19, dans deux blocs, mais dans ces tranches d'âge, c'est justement là où on a plus de complexité, c'est-à-dire une relation qui est légèrement plus marquée que dans les autres tranches d'âge. Ça reste faible, mais ça vaudrait le coup de creuser plus. Donc voilà, si vous êtes déprimé, bah c'est peut-être pas la technologie, hein, c'est peut-être les guerres, l'effondrement écologique, les polluants éternels dans les pots de yaourt qui donnent le cancer, et puis bon, les punaises de lit, hein, saleté de punaises de lit.
Saleté de punaises de lit. Quelque part, ça rejoint un petit peu des tribunes et des propos de Yann Leroux, qui parle assez souvent, lui, des conséquences des jeux vidéo qui ne créeraient pas de désordre psychologique et pas non plus d'addiction au sens médical du terme. Évidemment, tout ça est assez compliqué et loin de nous la prétention de vous relayer là dans Tech Café des affirmations. La recherche continue et la recherche continue aussi donc en matière d'intelligence artificielle, on se doit d'en parler. En Europe notamment, Guillaume, il ne devrait pas y avoir trop d'impact sur l'emploi. Et ça pourrait peut-être quand même un peu jouer sur les salaires. Alors, des conclusions à prendre avec des pincettes et peut-être à surtout pas transposer à d'autres environnements comme les États-Unis. Il faut prendre les études avec les résultats tels qu'elles sont et pas les transposer, c'est ça?
Ouais, bah là, on va entrer dans les études qui sont un peu moins convaincantes, on va dire. La BCE sort une étude qui est demi-rassurante sur l'impact de l'IA dans le secteur de l'emploi. Une étude sur 9 ans et 16 pays européens qui conclut un effet positif de 2,6 à 4,3% sur les postes impactés, qui sont des emplois très qualifiés. Les emplois non qualifiés ne souffriraient pas, mais premier petit bémol, l'étude note, sans l'expliquer d'ailleurs, un impact légèrement négatif sur les salaires. Moi, je vois un deuxième gros bémol à cette étude, hein, qu'on remarque dès qu'on lit les résumés de leur article en PDF, hein. Elle porte sur les années 2011 à 2019.
Exactement, et 2011, je ne suis pas certain que l'intelligence artificielle était la même qu'en 2023, et en 2019 non plus d'ailleurs.
Ben oui, elle mesure les effets de l'IA à une époque où les IA génératives n'existaient pas du tout.
Eh oui.
On rappelle que Midjourney, c'est février 2022 et que ChatGPT, c'est novembre 2022. En 2019, on est bien avant que les IA puissent produire quoi que ce soit de concurrentiel avec un humain. Donc cette étude donne peut-être un bon aperçu historique de la période passée, mais elle ne préfigure absolument pas de ce qui va se passer à partir de maintenant. Malheureusement, elle ne sert strictement à rien si on veut avoir une idée de ce qui nous attend sur le marché du travail dans la prochaine décennie. Parce que la décennie 2020-2030 n'aura rien à voir technologiquement avec la période 2011-2019, et ça c'est certain.
Alors on continue avec des études, et là aussi peut-être à prendre avec des pincettes ou avec un petit peu de recul. En tout cas, ça n'annoncerait, si c'est confirmé, vraiment rien de bon. Il s'agirait en tout cas de mesurer l'énergie consommée par la génération d'images. Une IA générative consommerait autant d'énergie pour faire une image qu'il en faut pour recharger un appareil comme un smartphone. Et évidemment d'ailleurs, Guillaume, au passage, qui dit énergie, dit émission de carbone. Est-ce qu'on peut tirer le fil jusqu'au bout ?
Bon, alors, c'est une autre étude qui est vraiment décevante, et surtout venant d'une institution comme Hugging Face, hein, c'est cet article qui veut quantifier effectivement la consommation électrique des IA, ce qui est effectivement un domaine compliqué, c'est sûr, parce que des IA, il y en a de tous les types. Il y en a qui reconnaissent des visages, il y en a qui analysent les sentiments ou la toxicité d'un texte, il y en a qui génèrent des images, d'autres qui les classent, et il y en a encore évidemment qui génèrent du texte, etc.
On compare des choux et des carottes, c'est ça ?
De quoi ?
On compare des choux et des carottes, c'est ça ?
C'est pas vraiment ça. Enfin, oui, si, c'est un petit peu ça, en fait, oui, effectivement, si tu veux. En gros, cette étude regroupe, cette étude regroupe 88 modèles de deep learning et elle donne leur consommation moyenne sur un type de tâche fixe par catégorie. Donc là, il y a des catégories comme classification d'images, classification de texte, détection d'objets, génération d'images, génération de texte, etc. Donc c'est une étude qui a été reprise un petit peu partout, qui est en train d'être reprise un petit peu partout, en particulier dans le prestigieux MIT Tech Review. Et on y lit effectivement que générer une image consomme autant d'énergie que charger son téléphone et que générer du texte en consomme bien moins. Je crée du texte 1000 fois, je cite l'article de MIT, là, consommerait seulement 16% d'une charge complète. Et là, on se pose des questions, parce que on sait que les modèles qui génèrent du texte sont beaucoup plus gros que ceux qui génèrent des images. Et que comme la quantité d'énergie est proportionnelle à la quantité de calcul, et donc grosso modo au nombre de paramètres, on se demande par quel miracle ça peut être possible. Donc on va voir dans les appendices de l'article original, hein, et puis on se rend compte dans les appendices que les modèles mesurés sont tous absolument minuscules. Les modèles de langage qui ont été choisis ont entre 125 millions et 6,7 milliards de paramètres en moyenne. Au maximum. 6,7 milliards, en moyenne, on doit être autour du milliard de paramètres sur les modèles qui sont étudiés. Or, ChatGPT 3.5, hein, il a 175 milliards de paramètres, et il y en a sans doute encore bien plus pour GPT-4. Et surtout, plus personne n'utilise ces modèles. Tous ces modèles sont complètement obsolètes, ils sont complètement nuls, d'ailleurs. Personne n'utilise GPT-2, ni GPT-Neo, ni Opt 6.7 ou Bloom 560M. C'est-à-dire plus personne. Les gens utilisent ChatGPT, Claude ou Pi, qui sont en moyenne peut-être 100 fois plus gros. Et même en local, on n'utilise plus ces vieilleries. On utilise des lamas à 13, 34 milliards de paramètres, voire 70. On n'utilise jamais ces genres de trucs. Donc ils sous-estiment massivement la consommation de la génération de texte, peut-être de 100 fois. Leurs chiffres n'ont absolument aucun intérêt. Et pour ce qui est de la génération d'images, c'est aussi suspect. Parce que cette fois, quand on regarde donc dans quel modèle ils utilisent, ils utilisent des modèles classiques. C'est-à-dire Stable Diffusion 1.5, le 2, le XL, Open Journey, etc. Bon. Ok, mais si on regarde les chiffres bruts de la consommation, ils donnent 3 kWh pour générer 1000 images. Alors déjà, c'est 3 kWh de moyenne avec un écart type de 3,31 kWh. Donc ça, c'est quand même une belle dispersion. Mais passons. Bref, ça me paraît beaucoup. Donc allons-y, hein, je prends mon PC. Mon PC, il consomme dans les 300 watts max en charge. J'ai une 2060 Super qui consomme grosso modo 200 watts en max, et un CPU qui a un TDP de 75 watts, donc on va dire que voilà, au doigt mouillé, il consomme dans les 300 watts, quoi. Donc je me lance un petit Stable Diffusion XL classique, hein, voilà, le classico, c'est SDXL, et c'est le plus complexe, en fait, du lot de ceux qu'ils prennent, de ceux qu'ils utilisent, c'est le plus complexe. Donc ça devrait me donner une borne supérieure de la consommation. Hein, donc, et plus j'y vais simple, hein. Pas d'optimisation avec TensorRT, j'utilise un sampler archi classique à DPM2, et je mets 18 secondes à pondre une image, ce qui me fait 5 heures de boulot pour pondre 1000 images, et donc, je vais consommer 1,5 kWh, et pas 3. Et pire, eux, ils utilisent une instance Amazon avec des Nvidia A100, et une A100, c'est beaucoup plus efficace énergétiquement que ma pauvre RTX pour ce boulot. Ouais. Et pour finir, ils font la moyenne avec des modèles qui produisent des images qui sont plus petites et qui demandent moins de calcul. Donc ils devraient trouver encore moins.
Ah ben oui.
Donc c'est improbable qu'ils dépassent le kilowattheure. Alors quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Manifestement, ils utilisent un nombre d'itérations qui est bien supérieur à celui que j'utilise moi.
Aïe.
La génération d'images, ça se fait progressivement. Vous savez, ça se fait pas à pas avec des itérations comme ça. Donc on peut régler le nombre d'itérations. Et s'ils trouvent 3 fois plus de consommation que ce qu'ils devraient, c'est qu'ils demandent 3 fois plus d'itérations. Moi, j'en utilise 20. Parce que c'est suffisant, hein, avec un sampler moderne. Et eux, ils en utilisent probablement 60 ou plus, ce qui est totalement inutile. les sampleurs évoluent, ils évoluent très vite. S'il y a 2 ans, il fallait 80 itérations au tout début, maintenant, il en faut 20, voire 15. Et c'est sans compter certaines évolutions où on a une image avec 4 itérations, voire une seule. Par rapport à la pratique, cette étude surestime largement la consommation de la génération d'images et sous-estime massivement celle de la génération de texte. Donc je ne connais pas bien les autres modèles qu'ils ont essayés, la reconnaissance d'objets, tout ça, je connais beaucoup moins bien, bien sûr. Mais de là à considérer que ça suffit pour se rendre compte que cette étude est bidon, il n'y a pas loin, parce que bon, le cœur du sujet, c'est bien la quantification de l'énergie consommée quand même. Donc si dans 2 catégories majeures, c'est complètement nul, bon, en fait, je pense que ça prouve juste que méthodologiquement, l'article va dans une impasse complète. Cette manière de quantifier des modèles à un instant donné, en mesurant l'énergie qu'ils consomment pour faire le truc, ça n'a pas de sens, parce que 2 mois plus tard, on fait déjà plus comme ça dans la pratique. Donc pour l'instant, ça évolue trop vite et c'est pas du tout pertinent. Alex De Vries, qui essayait donc aussi, lui, de quantifier l'impact des IA en termes de CO2 et d'énergie consommée, hein, donc donc c'était un article dont on avait parlé en septembre, je crois, il utilisait une approche qui était beaucoup plus réaliste en réalité, puisque lui, il comptabilisait le nombre de composants qui étaient achetés par les prestataires, et comme on connaît la consommation de chaque composant, et qui part du principe qu'ils seront tous utilisés au maximum, ça lui donne une estimation approximative mais crédible de l'énergie qui sera consommée à peu de choses près. C'est-à-dire les acheteurs de ces puces, ils les payent assez cher pour pas les laisser prendre la poussière dans un tiroir, quoi. Donc finalement, cette approche, si tu veux, qui est beaucoup plus... cette approche qui c'est beaucoup plus crédible que celle de prendre « Ah, je prends ce modèle spécifique et je regarde comment il est fait », alors que plus personne l'utilise, quoi. Un an plus tard, plus personne n'utilise ça. Donc, je suis assez déçu de cette étude de Hugging Face. Elle sera relayée un petit peu partout, je suppose. Donc, méfiez-vous des chiffres que vous lisez. Ouais. Ils correspondent à rien de pertinent, en fait. Mm-hmm. Alors, attention, je ne conteste pas du tout que les IA consomment énormément d'énergie. Et évidemment. Bien, ça n'a rien à voir.
Le premier à le dire. Enfin, le premier.
C'est juste que cette étude ne sert à rien pour savoir exactement combien.
Bon, dommage, si on avait la copie là sur notre bureau et qu'on avait le stylo vert, on dirait travail à revoir. On va terminer cette rubrique de langue de la recherche, Guillaume, avec des nouveaux matériaux qui ont été identifiés par Google, c'est ça ? Mais où vont-ils trouver tout ça ?
Écoute, au chapitre des bonnes nouvelles quand même, on peut citer DeepMind, dont les chercheurs ont utilisé un outil de deep learning qui s'appelle Gnome et qui a fait du beau boulot. Bon, il a découvert 2,2 millions de nouvelles structures cristallines, et parmi elles, 380 000 seraient stables et auraient du potentiel. Donc parmi ces presque 400 000 structures qui ont une chance de ne pas exploser ou se désintégrer spontanément dans un éclair de lumière de couleur rigolote, il pourrait très bien y avoir de nouveaux matériaux qui pourraient améliorer la vie des gens, quoi, parce que toutes les technologies, globalement la tech, c'est des matériaux. Voilà, c'est la science des matériaux, tout est science des matériaux en tech. Hein, les semi-conducteurs, c'est la science des matériaux. Les batteries, les panneaux solaires, tout ça, c'est de la science des matériaux. Donc, si tu trouves des nouveaux... Alors, à un matériau donné, en gros, tu as d'une efficacité, quoi, des performances qui sont maximales fixées. Hein, voilà, et puis, si tu veux mieux, il faut changer de matériau. Donc, il faut découvrir de nouveaux trucs. Hein, et puis, pour découvrir ces trucs, jusqu'à présent, on fait un petit peu par essai-erreur. Et là, l'approche algorithmique permet d'accélérer les choses. Donc, ce logiciel-là, il a trouvé plus de candidats d'un coup que nous depuis tout le début de la science des matériaux, en fait. Bien sûr, maintenant, il reste à synthétiser tous ces trucs et à vérifier qu'ils sont aussi super que ce qu'on imagine. Donc, il reste beaucoup de boulot. Il y aura aussi énormément de déchets dans le tas. Évidemment, il y a plein de trucs qui n'auront pas d'intérêt plus que ça. Mais sur le volume de trucs découverts, il y a une bonne chance que certains soient plus performants que ce qu'on a. Donc, la synthèse, c'est un domaine bien plus concret. Évidemment, hein, quand tu vas synthétiser ça, c'est beaucoup plus concret que juste imaginer des structures cristallines qui sont compatibles avec la physique. Ça reste beaucoup de boulot, mais ça aussi, ça pourrait être accéléré par des robots, puisque les laboratoires autonomes font aussi leur début. Donc il y a des chercheurs de Berkeley qui ont utilisé le A-Lab, pour Automatic Lab, je sais pas, sûrement, pour créer 41 nouveaux composés sur une liste de 58. Hein, donc c'est des laboratoires robots qui sont donc manqués un tiers du temps, mais c'est un bon début déjà. Donc la photo du A-Lab fait penser à une sorte de chaîne de montage de voitures en réalité, ça ressemble un peu à ça. Hein. Il y a une espèce de petite usine, c'est une espèce de petite usine à faire de la chimie. Donc en gros, il y a plein de trucs à mélanger sur les murs. Et puis bon, voilà, il y a des tables tournantes automatisées, des trucs qui bougent de tous les sens. Et puis au milieu, il y a une espèce de gros bras robot, un gros instrument, gros bras robot qui secoue les shakers, quoi, en gros pour faire les cocktails. Donc on pourra s'affoler de la perte d'emploi chez les techniciens de laboratoire ou se réjouir d'un rythme de découverte accéléré qui va sans doute apporter des innovations un petit peu partout. Et on peut d'ailleurs faire les deux, hein, l'un n'excluant pas l'autre.
Donc, si je résume bien, Google DeepMind, il invente en gros des plans, des structures possibles. Et après, le laboratoire tend à tester dans des conditions réelles, de réaliser ces matériaux pour les tester et voir si ça fonctionne bien, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Ouais,
c'est incroyable. C'est génial. Et donc, on invente beaucoup plus de matériaux possibles qu'on arrive à en synthétiser, ce qui est logique, mais ça va s'accélérer grâce à la robotique. Génial. On change un petit peu de rubrique, mais on continue à parler d'intelligence artificielle, vous vous en doutez bien, parce qu'on a du scoop dans notre feuilleton du moment. Nouvelle étape dans l'affaire de l'éviction de Sam Altman à la tête d'OpenAI par son conseil d'administration. Une place d'observateur sans vote a été offerte à Microsoft, Guillaume.
Oui, bah, y a plein d'actu autour de OpenAI cette semaine, hein, vraiment plein, et pas uniquement les multiples fêtes et gâteaux d'anniversaire de ChatGPT, puisqu'il fête ses 1 an tout pile.
Ah oui.
Et oui, profitons-en d'ailleurs pour mentionner quelques mises à jour, donc effectivement sur cette saga OpenAI, qui aura sans doute sa série Netflix ou Amazon Prime très très rapidement. Peut-être un bouquin, Walter Isaacson, je sais pas. Ou Bernard-Henri Lévy, va savoir. Mais bon, Sam Altman est officiellement revenu chez OpenAI, et Microsoft a un siège au conseil d'administration, mais il peut pas voter. C'est une position d'observation. Au moins, ça le préservera d'une autre méga surprise comme celle du mois dernier. Méga surprise qui était, on l'a appris d'ailleurs par The New Yorker, une stratégie du board délibérée. Donc le board précédent, bien sûr, il voulait virer Sam Altman, vite fait bien fait, et donc il voulait compter sur l'effet de surprise. Et ça a bien marché. Je veux dire, ça a surpris le monde entier. Ça, c'est clair, et en plus de l'intéresser. Hein. Là, par contre, où leur talent de stratège est moins évident, c'est qu'ils pensaient que Microsoft allait les soutenir. Et là où ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, c'est qu'ils pensaient sincèrement que les employés de la boîte aussi les soutiendraient, ce qui a été vraiment pas le cas. Donc voilà, on a aussi quelques bruits de couloir sur divers témoignages qui évoqueraient des tentatives de manipulation de Altman pour virer Hélène Tonner, cette chercheuse dont on avait parlé la dernière fois, qui aurait dit des trucs, voilà. Bon, en gros, sa stratégie, c'est de dire un petit peu des trucs différents à chacun, hein, voilà, diviser pour mieux régner. Bon, Altman serait un petit roublard, et d'ailleurs ça a bien servi à OpenAI par le passé, puisqu'il aurait bloqué une tentative de reprise de contrôle par Elon Musk en 2018, et puis son talent de camelot a été quand même bien utile pour lever des fonds, ça a bien marché. Mais tout ça reste très flou, c'est à prendre au conditionnel, on sait toujours pas ce qui s'est passé exactement. Altman a donné une interview à The Verge, dans laquelle on apprend strictement rien. Mira Murati confirme que ça n'a rien à voir avec un problème de sécurité, et Sam confirme que Q-Star existe, mais bon, il ajoute rien, donc on ne sait rien. Voilà, Sutskever et Greg Brockman ont diffusé une photo tout sourire, voilà, comme si c'était des BFF, mais on ne sait pas encore quel poste il y aura à l'avenir quand même. Hein. De toute façon, quoi qu'il se soit passé, Sutskever est un auto pour la boîte, ils ne vont pas laisser partir parce qu'il doit y avoir un mug à son nom dans les placards de toutes les boîtes du monde qui font de l'IA, au cas où il se ferait lourder, on ne sait jamais. Bon, maintenant, voilà, on peut passer à ChatGPT qui vient de souffler sa première bougie. Et qui est un beau bébé bien gras quand même. Hein.
Effectivement, l'actualité continue d'ailleurs au sujet de ChatGPT. On va d'ailleurs aller au passage au Brésil avec quelque chose de marquant sur le plan historique. En tout cas, il faut quand même qu'on le relaye dans Tech Café. Et puis aussi une recherche alors qui est assez intéressante par les équipes de Google et aussi assez cocasse qui concerne ChatGPT qui est parvenu à hacker quelque part le comportement de ChatGPT, et qui est parvenu à un résultat un peu curieux. En fait, il suffisait de lui demander de répéter bêtement un mot pour toujours pour que, il le fasse, mais qu'au bout d'un moment, on ne sait pas trop pourquoi, mais il lâche le contenu en mode super copier-coller de la mort de ses données d'entraînement et on voit des informations qu'il a digérées pour apprendre. Guillaume, répète pour toujours le mot tabernacle, s'il te plaît.
Oh non! Non, mais de toute façon, ça marche pas, il faut que ce soit un mot qui fasse un seul token.
Ah, bon, pardon, mauvais exemple.
Là, c'est plexé, c'est dommage. On va en parler. ChatGPT qui a été lancé le 30 novembre 2022. Donc, voilà.
Beau bébé.
Happy birthday to you, ChatGPT. ChatGPT. Et donc, il vient d'ailleurs, au même moment, quasiment un an jour pour jour, il vient de voir sa première loi promulguée.
Et oui.
C'est pas une blague, incroyable. C'est Ramiro Rosario, qui est un conseiller municipal de Porto Alegre, au Brésil, qui a demandé à ChatGPT d'écrire une proposition de loi. En l'occurrence, c'est une loi pour dispenser les administrés de payer pour les vols de canalisation. Voilà. C'est particulier, mais. Donc voilà, il a présenté à ses 35 collègues, et elle a été approuvée à l'unanimité, cette voix, et le conseil ne savait pas du tout que c'était un texte écrit par une IA. Parce que bien sûr, Ramiro, il a rien dit, parce que ses collègues auraient sans doute même pas lu ce truc. Mais là, c'est passé crème. Donc je pense que ça illustre bien le chemin parcouru en seulement une année.
Oh oui.
C'est ChatGPT, novembre 2022, un prototype, une bêta, hein, au mieux, hein, rendu public de manière un peu expérimentale, quasiment sur un coup de tête. Maintenant, c'est un outil utilisé par des législateurs dans le monde entier. Bah voilà, super. C'est, voilà, si vous écoutez Tech Café, je pense que voilà, 80% du contenu parle de lui-même en ce qui concerne l'impact des IA génératives. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de problème. Bien évidemment. Et récemment, c'est vrai qu'il y a donc cet article qui a été d'ailleurs pas mal relayé, hein, et d'ailleurs pris en compte, hein, on va le lire. Donc, c'est les chercheurs qui ont réussi à faire recracher du texte issu des données d'entraînement, y compris des informations personnelles, mais à tous les modèles de langage, en fait. Donc le papier, finalement, plus généralement, hein, s'intéresse à la mémorisation dans les modèles de langage. Donc il sépare les études entre les modèles ouverts, les modèles semi-ouverts et les modèles fermés. Et alors, les modèles ouverts, c'est ceux dont on connaît tout, quoi, voilà, on peut les utiliser comme on veut, on connaît le dataset, on a tout. Les semi-ouverts sont ceux qu'on peut utiliser comme on veut, mais dont on ne connaît pas le dataset. Puis les fermés, bah, ils sont fermés, donc voilà, on connaît que dalle, et puis on peut les utiliser uniquement de manière contrôlée, comme ChatGPT, par exemple, ou Claude. Alors déjà, il faut bien se rendre compte que tous les modèles mémorisent des choses. En fait, c'est même complètement évident, puisque bah, voilà, on pose tous des questions factuelles à ChatGPT, il y répond. C'est-à-dire, si tu lui demandes de te raconter la guerre des sécessions, bah, il va te répondre. Si tu lui demandes tu vois, qui a écrit Les Fourmis ou Harry Potter, bah, il va te répondre, hein, voilà, Weber ou Rowling. Et donc, c'est bien qu'il a mémorisé des choses. Et c'est pas non plus étonnant, bah, qu'au plus un modèle soit gros, bah, au plus il mémorise des choses. Et c'est confirmé dans l'étude, d'ailleurs. Le problème arrive quand cette mémorisation tourne au par cœur et concerne des données que le modèle aurait pas dû lire. Là encore, c'est pas si étonnant que le modèle apprenne certaines choses par cœur, parce qu'on a vu dans des études précédentes que certaines portions de texte revenaient des dizaines, des centaines ou des milliers de fois dans certains datasets. Et donc, si un réseau voit 1000 fois une suite de tokens, par exemple, je sais pas, un truc à la con comme « pour laisser un commentaire, veuillez vous connecter », ben c'est pas étonnant que s'il voit des milliers de fois, à un moment donné, la suite de mots qui est la plus probable, quand vous l'écrivez « veuillez vous laisser un commentaire », ben ce soit « veuillez vous connecter », quoi, voilà, c'est un peu ce genre de truc. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans l'étude. La première, c'est qu'ils ont mis au point des outils pour estimer le degré de mémorisation du dataset. Ce qui n'est pas évident du tout, vu le volume de texte. Même si on ne connaît pas le dataset exactement, d'ailleurs, ils arrivent quand même à le faire avant une estimation. Donc, dans ce cas, on se base sur les échantillons de ce qu'on trouve en ligne, en fait, tout simplement, ou dans diverses bases de données probables, publiques. Et après, on fait cracher donc des milliards de mots au modèle pour trouver des correspondances sur des... sur des groupes de tokens, là, c'est des n-grammes qui font 50 tokens. En gros, c'est des morceaux de texte. Quoi. Donc, pour des modèles complètement ouverts, on oscille entre 1,4 et 0,1% de tokens qui sont mémorisés, pour les suites de 50. Hein. Donc, 50 tokens, c'est une trentaine de mots, en fait. Donc, le rythme avec lequel les modèles recrachent les données de son dataset, c'est de l'ordre de moins de 1% pour le gros Llama 65B, 0,5% pour Mistral, et 0,1% pour Falcon, mais ça peut atteindre presque 3% pour ChatGPT. Donc c'est un rythme qui est bien supérieur, qui pourrait s'expliquer par le fait bah, que le modèle pourrait, alors c'est pas confirmé, hein, être entraîné sur plusieurs époques, c'est-à-dire qu'il pourrait revoir plusieurs fois l'intégralité du dataset. Évidemment, ça permet de mieux apprendre, parce qu'en fait, il révise quelque part, il fait des révisions, mais du coup, quand il fait des révisions, bah, finalement, il y a des trucs qu'il apprend par cœur. Quoi. Donc le risque de mémorisation par cœur est un petit peu plus important dans ce cas-là. Ce qui est étonnant, c'est que le ChatGPT, il est aligné, et que donc il est très encadré, et que malgré tout, les chercheurs ont réussi à lui faire cracher des données de son dataset. Ils ont réussi à le jailbreaker. Effectivement, c'est une manière assez rigolote, c'est ce que tu disais. Alors attention, donc effectivement, il lui demande de répéter un mot à l'infini, par exemple le mot contrat, et puis il va faire dire contrat, 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 contrat. Bon. Et puis il va répéter des centaines de fois ce mot, puis à un moment, il pète un boulon, bon, tout simplement.
C'est génial.
Il va passer en allemand, et puis il va commencer à produire du texte qui pourrait être un contrat passé entre deux boîtes pharmaceutiques à Zurich.
Tu vois, pourquoi, si c'est au bout d'un moment, c'est ça qui est quand même dingue. C'est pourquoi est-ce que
alors
ça
attention, le truc, c'est qu'il faut bien voir que le texte qu'il produit à ce moment-là n'est pas forcément un texte qui est issu de son dataset. Mais ça peut être... dans une fraction des cas qui est d'environ 3%,
ouais,
du texte issu de son dataset. Donc si c'est si tu lui demandes de livre, au bout d'un moment, ben, il fait livre, 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 et puis après, je sais pas, il va péter un boulon et peut-être il va réciter un poème d'Edgar Allan Poe. Mais c'est pas du tout systématique. La plupart du temps, il part en couille, et puis il produit juste du texte aléatoire, quoi, comme ça, ouais, il brode. Mais certaines fois, il va produire verbatim, ou presque, hein, des textes qui sont dans son ensemble d'entraînement. Et parfois, dans ces trucs qui crachent verbatim, il peut y avoir des informations personnelles, comme des emails, des numéros de téléphone, des UID, des URL, un peu n'importe quoi. Donc le fait que ChatGPT devienne fou avec des répétitions à l'infini de tokens, en fait, ça avait déjà été remarqué. Par contre, ça n'avait pas été utilisé pour repérer la mémorisation. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il devient dingue? C'est pas certain. On ne sait pas, puisque le modèle n'est pas ouvert, on ne peut pas être sûr. Mais il est possible que mathématiquement, la répétition d'un même token, en gros, quand on, on met un même token comme ça, là, ça, en gros, ça approxime un autre vecteur. C'est-à-dire que, comment dire, quand vous envoyez le texte, le prompt dans l'espace mathématique qui correspond, qui l'espace mental en quelque sorte du truc, c'est un espace mathématique avec plein de dimensions, et donc dedans, voilà, vous avez des vecteurs, et il est possible que cette répétition comme ça, très très longue, très 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 longue, d'un seul mot, bah, en fait, elle le fasse converger vers un caractère spécial, vers un token spécial. Parce qu'en fait, il y a des tokens spéciaux. Dans le vocabulaire des modèles de langage, il n'y a pas que des tokens normaux, qui sont des mots ou des morceaux de mots, il y a aussi des tokens spéciaux pour, par exemple, finir une phrase, commencer une phrase, tu vois, fin de texte, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on sait que le modèle a fini de répondre à une question. Un modèle, quand il répond à une question, bah, il crée comme ça du texte. Mais à un moment donné, il peut aussi envoyer un token spécial qui s'appelle end of text, et puis bah, le truc s'arrête et il vous rend la main, par exemple. Donc, il est possible, effectivement, que, d'une manière géométrique, en quelque sorte, la répétition d'un token approxime un autre token bizarre, un autre token spécial, et que ce token spécial, ce soit un token de début de séquence. Et donc, le token de début de séquence, ça lui fait dire qu'en fait, bah, ok, là, il a fini de parler, il a fini, par exemple, un paragraphe, et là, il faut passer à autre chose. Et donc, passer à autre chose, pour lui, ça veut dire qu'il peut commencer à parler d'autre chose. Et du coup, bah, comme bah, c'est autre chose, bah, en gros, il commence à parler de n'importe quoi. Bah, dans le thème, quand même, parce que bah, si c'est livre, il reste dans le thème, il commence à parler de n'importe quoi. Bon, on n'est pas sûr de ça. Hein. Alors, quel problème tout ça pose? D'un point de vue des données personnelles, ça, à mon avis, ça ne pose pas tant de problèmes que ça, parce que bah, si le dataset, s'il ne contient que des trucs qui sont déjà publics sur Internet, bah, a priori, bon, ben bah, voilà, de toute façon, c'est un truc que tu aurais trouvé en utilisant Google, quoi, tu vois. Donc, alors, évidemment, jailbreaker ChatGPT, c'est moins efficace que Google si tu sais ce que tu cherches. Bon, après, évidemment, il y a un côté systématique qui peut être attrayant, quoi. Donc, d'ailleurs, depuis cette étude, demander de répéter un mot indéfiniment devient interdit sur le titre de ChatGPT, c'est devenu une violation des termes de service. Évidemment, bah, le problème se pose si ces données deviennent d'autres sources, hein, des sources, voilà, copyrightées. Évidemment. Bon, alors, je veux dire, il est tout à fait possible que ChatGPT donne un paragraphe d'un livre protégé, mais après, le livre entier, c'est très peu probable. De toute façon, les données personnelles publiques n'ont pas vocation à se retrouver. Enfin, les données personnelles et les données copyrightées, à terme, n'ont pas vocation à se retrouver dans des datasets. Hein, donc, bon, voilà, de plus en plus, je pense qu'on va s'affranchir de ça. Et puis, les données synthétiques sont une bonne piste à suivre.
Bon, c'est fort cocasse, vous pouvez hein, aller regarder l'article qui parle de ce sujet, il est dans les notes de l'épisode, comme tous les sujets qui sont abordés dans Tech Café. Donc tu l'as dit, en tout cas, ChatGPT est un beau bébé, et puis bah, évidemment, on commence à voir des sujets un peu historiques, et c'est tout aussi historique que la loi écrite par ChatGPT qui a été acceptée au Brésil. C'est, alors en Chine cette fois, une décision. Alors, la décision, c'est celle d'autoriser le fait que, j'espère ne pas dire de bêtises, le droit d'auteur puisse s'appliquer sur une image qui a été générée par intelligence artificielle de la part de la Chine, Guillaume, voilà, qui est fort progressiste, ma foi.
Écoute, on parlait de copyright pour les IA, et justement, la surprise générale de l'Occident, je suppose, un Chinois a obtenu les droits d'auteur sur une image générative, donc la Cour a reconnu que sa production possédait une originalité. Il y avait nécessité suffisamment d'intervention humaine hein, pour mériter d'être protégé par un droit d'auteur. Alors,
à chaud, ça se défend quand même, non?
Alors, ça se défend. Maintenant, je vous encourage à aller voir l'image qui a obtenu son copyright, les copies merde. Ou les plagiats qui en ont été faites, et je vous laisse un petit moment pour vous remettre de votre crise de rire. Parce que le mec a copyrighté une fausse photo d'une jeune fille asiatique qui est totalement générique, et dont je vois passer des quasi-clones à longueur de journée sur Reddit, et les copies sont des images tout aussi génériques de jeunes filles qui lui ressemblent à peine, d'ailleurs. Donc, la première création IA, dont on a reconnu l'originalité au tribunal, possède non seulement un sujet, mais aussi une exécution qui est excessivement banale. Et c'est quand même assez cocasse. Donc, on peut que remarquer que la décision chinoise, quand même, est à l'opposé de celle qu'on a relayée aux États-Unis. Pour le moment, toutes les tentatives de faire protéger par les droits d'auteur des images, comme le théâtre d'opéra spatial, même, hein, qui a gagné un prix, ou des œuvres comme la BD de Zarya, ou je sais plus quoi, je sais plus comment elle s'appelle, ça a été des refus, hein, des refus polis mais fermes à chaque fois. Donc voilà, les paysages de la propriété intellectuelle vont se dessiner très différemment hein, dans les deux blocs, il semblerait. D'un côté comme de l'autre, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va être un cauchemar, de toute façon, hein, pour deux raisons opposées. Parce que les US ne veulent pas protéger une œuvre sans savoir exactement comment elle a été produite et à quel point elle a été générée ou retouchée ou complétée à la main. Donc a priori, La philosophie, c'est que s'il y a suffisamment de boulot, ben on pourrait éventuellement protéger le truc. Mais c'est super compliqué en vrai, parce que pour chaque œuvre, il faut en gros tout l'historique de la création et estimer, quantifier le travail qui est dedans, c'est long, c'est compliqué, et les outils changent tout le temps en plus. Bon, c'est, à mon avis, c'est une impasse pour le bureau qui s'occupe de ça, parce qu'il va passer des millions d'heures pour ce genre de truc, ça va être horrible. En Chine, au contraire, ça n'a pas l'air dur de protéger une image, hein, et donc là, le problème, c'est l'inverse. On va avoir des millions d'images qui se ressemblent toutes, avec tout et avec... Et puis bon, en plus, tout un chacun peut produire ce genre de truc en 10 minutes. Enfin, après 10 minutes de tout YouTube, éventuellement, mais bon, voilà, en 10 minutes. Et donc, les auteurs peuvent aussi s'attaquer les uns les autres, jusqu'à la fin des temps. Donc voilà, bon, maintenant, j'attends de voir ce qui va se passer en Europe, tiens.
Sortons le popcorn et attendons de voir. Guillaume, tout à l'heure, quand on parlait de tentatives avec des études de mesurer l'énergie consommée par les intelligences artificielles génératives, tu nous parlais de leur évolution et tu nous disais maintenant qu'il y a des outils qui permettent de générer des images avec un nombre très réduit d'étapes. Justement, on a Stability AI qui évolue avec une version turbo. Alors Guillaume, si j'ai bien compris, avec Stable Diffusion Turbo, j'aime le nom, je ne peux pas encore générer d'images en temps réel. Mais on va pouvoir assez facilement avoir des résultats assez convaincants en quelques secondes seulement. Explique-nous un peu ce prodige.
Alors bah tu peux, en temps réel, tu peux si tu as un matos suffisamment puissant. Ouais. Donc on en parlait dans le supplément, je ne sais plus d'ailleurs, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Mais bon voilà, de toute façon je vous casse les pieds avec la génération d'images à peu près toutes les fois. Et donc c'est soit pour vous parler de nouveaux outils, soit pour vous parler d'annoncer des accélérations, des optimisations des algorithmes. Hein. Et bon, je vais peut-être arrêter, puisqu'effectivement, la norme, ça va devenir la génération en temps réel. Et donc, ça plie le game, hein, puisque c'est virtuellement instantané. Et c'est pour très bientôt, voire pour tout de suite, parce qu'après les LCM et les GAN hybrides, voilà que c'est Stability AI eux-mêmes, et donc les papas de Stable Diffusion, qui sortent de Stable Diffusion Turbo. SD Turbo, c'est SDXL, mais qui génère des images en une seule itération. Et si vous avez une carte graphique qui est assez puissante, elle génère les images plus vite que vous ne pouvez taper le prompt. Donc si vous n'avez pas une machine très costaud, vous pouvez aller le tester sous ClipDrop ou sous Hugging Face, hein, ouais. ça marche aussi. Et donc le principe, c'est de créer un nouveau modèle de Stable Diffusion XL qui soit optimisé pour la génération ultra rapide. Donc on prend un modèle pré-entraîné, de manière standard, hein, donc il sait faire des images tout seul, mais bon, top. Ça concerne le UNet en l'occurrence, mais bon voilà, c'est Stable Diffusion normal quoi. Et ce sera l'élève, le modèle élève. Et après, lui, on le fait tutorer par un autre modèle, le modèle prof. Donc les productions accélérées de l'élève sont notées par le prof. Et en fait, c'est comme ça qu'on le forme à travailler vite et bien, puisqu'on le récompense s'il fait des bonnes productions rapidement. Donc ça rappelle un petit peu ce que j'avais raconté sur les hybrides de modèles de diffusion GAN, même si c'est un peu différent, c'est une approche qui est un petit peu analogue finalement. Donc pour le moment, le modèle est plutôt orienté vers la recherche, parce que c'est un prototype, hein, donc il produit des images en 512x512, c'est-à-dire 4 fois plus petite que le vrai SDXL. Et la qualité, en tout cas, selon mes tests perso à moi, c'est pas ça.
Ah merde,
c'est
pas encore ça va vite, mais non. C'est pas très qualitatif.
Pas vraiment. Alors, c'est rapide. Alors, une RTX 2060 comme la mienne n'est pas suffisante pour du vrai temps réel, malheureusement. Voilà. Mais bon, si vous avez une 3080, à mon avis, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas encore avec ça que vous allez produire vos images définitives, je pense. Hein. C'est plus un outil pour explorer les prompts rapidement à ce stade. Mais bon, c'est une tendance qui est claire. La génération d'images va passer au temps réel, que ce soit pour les prompts ou pour les contrôles. Donc j'avais parlé de Crea AI, par exemple, qui offrait de transformer en temps réel des gribouillis, hein, vos gribouillis en images superbes, en même temps que vous gribouillez d'ailleurs. Hein. Bah, c'est aussi ce que propose Live Canva sur Leonardo AI. Leonardo, c'est donc un autre générateur d'images, effectivement, qui donc a ce Live Canva, et puis c'est la même chose, en fait, à vous. Vous dessinez à grands traits avec des gros trucs, globalement la tête que ça doit avoir, avec un petit prompt comme ça pour dire ce que vous voulez. Et puis, tout ça se passe en temps réel. Vous changez un truc, vous rajoutez un trait, voilà, ça vous rajoute un arbre, etc., etc. Donc c'est en train de se mettre en place. La génération devient tellement rapide que l'image ne coûte désormais qu'une seule itération. Donc t'imagines qu'elle coûte aussi énormément moins d'énergie qu'il y a seulement 3 mois. Puisque une itération contre 20 que moi j'utilisais par exemple pour mon test, t'imagines La quantité d'énergie qui est nécessaire pour faire une image avec SD Turbo, elle devient quasi dérisoire, elle est 20 fois inférieure. Mais bon, cela dit, on va aussi en générer beaucoup plus, du coup. Comment quantifier ça, précisément? C'est difficile, mais moi je pense que compter les watts par image, c'est sans espoir.
Tu m'étonnes. On l'a bien compris désormais. Et puis on va terminer, Guillaume, cette rubrique avec de l'audio généré par intelligence artificielle. Et en l'occurrence, c'est Meta qui s'y colle. Ils ont développé Audiobox, une nouvelle IA générative qui produit des sons à base de prompts. Ça semble super convaincant. Guillaume, est-ce qu'on est à la veille d'un changement massif dans les productions de contenu audio, à savoir un jeu vidéo, environnement sonore pour les vidéos ou encore, pourquoi pas, les podcasts.
Bon, tout est possible. Écoute, bah oui. On finit cette mini-revue des modèles tout frais de la semaine avec deux mises à jour de chez Meta qui sont encore une fois très prometteuses. Et ça les deux concernent le domaine de l'audio. Et effectivement, le premier, c'est Audiobox, qui est pas qu'on peut simplement décrire comme une sorte de Stable Diffusion ou un DALI de l'audio. C'est-à-dire, ouais. Vous décrivez une scène sonore, ou par exemple une rivière qui coule avec des oiseaux qui gazouillent, oh. Et il vous génère quelques secondes de son avec exactement ce que vous avez demandé. Voilà, une ambiance bucolique avec des cuits-cuits-cuits qui réchauffe notre cœur sec de citadin bitumé. Et bon, vous pouvez aussi vous en servir.
C'est le Saint Graal quand même du meneur de jeu de rôle en ligne, hein, pour faire des ambiances sonores. Ou pas en ligne, d'ailleurs.
Bah, le nombre d'applications est infini. Alors évidemment, vous pouvez vous en servir aussi pour faire de la synthèse vocale, d'ailleurs. Hein, et avec Emprime, vous avez la possibilité de spécifier qui et comment qui parle et comment il parle. Par exemple, tu veux que ce soit une jeune femme qui parle et qui parle vite. Ou Joe Biden qui chante Love Me Tender, je suppose. Ça doit marcher aussi, je ne sais pas. Donc pour continuer dans l'analogie avec Stable Diffusion, on peut faire aussi l'équivalent du image to image et de l'in-painting, c'est-à-dire on peut faire du image to image, ce serait du sound to sound, c'est-à-dire que vous lui donnez un son de référence, donc un gars qui parle par exemple, et puis vous le modifiez avec un prompt comme être dans une cathédrale. Bon, ouais. Ce sera un gars qui parle, mais dans une cathédrale. Et pour l'in-painting, le truc c'est que voilà, vous avez un son, vous virez le truc qui est au milieu, donc vous mettez un silence au milieu, et le truc peut combler les silences, il peut combler ces blancs et reconstruire de l'audio qui soit cohérent avec ce qu'il y a autour. Donc c'est assez incroyable et c'est évidemment un cauchemar pour encore une autre profession. Celle de bruiteur, bien sûr.
Ouais, c'est vrai.
Entre autres, n'est-ce pas ? Pourquoi payer quelqu'un pour créer des bruits de pas ou de cavalcades avec des cuillères ou des sabots en bois alors qu'il suffit de demander à son PC directement ? Bon. Voilà. Et pour continuer dans le domaine du cauchemar, Meta, très en forme, a aussi publié Seamless, donc, qui est un outil audio polyvalent focalisé sur la parole néanmoins. Polyvalent, mais pour la parole. Hein. Donc, c'est le cauchemar, plus spécifiquement des doubleurs, hein, évidemment. Là, donc une profession qui s'annonce très chahutée hein, dans les prochaines années. Seamless, déjà son concurrent à Whisper, Whisper qui était passé en version 3, en reconnaissance vocale et en transcription, mais qui était donc déjà meilleur que le 2, surtout dans les langues moins courantes, mais Seamless le dépasse encore. Hein. Donc, apparemment, dans les langues qui sont en plus, où il n'y a pas énormément de ressources, comme on dit. Alors, il serait aussi bien meilleur en traduction. Oui, j'oubliais, c'est aussi le cauchemar des interprètes, bien entendu. Mais bon, revenons au doubleur. Seamless permet de faire de la traduction de voix directement en préservant l'intonation et le timbre de la voix d'origine. Et tout ça est open source. Donc Seamless Large, c'est un modèle qui est polyvalent, il est assez gros, il fait 11 gigaoctets, mais ça reste quand même accessible à pas mal de monde. Et puis après, il y a les autres, il y a Seamless Expressive, par exemple, qui fait ce genre de trucs, etc. Donc il y a des vidéos démo qui sont complètement bluffantes. La même personne parle anglais, espagnol, français avec sa voix. Si tu chuchotes parce que bébé s'est endormi, eh ben, tu chuchoteras aussi bien en italien ou en russe. Pareil. C'est purement audio, donc sur les vidéos démo, il n'y a pas de synchro labial, hein, attention. Mais bon, voilà. Bon, après, évidemment, c'est pas forcément une super nouveauté, puisqu'on sait aussi que Agen, par exemple, c'est un service web, proposait ce genre de truc. Parce que tout ça, c'est presque classique. Mais Agen, c'est un service payant. Donc c'est une super nouvelle d'avoir la possibilité de faire ça soi-même gratuitement. Agen, quant à lui, va désormais d'ailleurs encore plus loin, puisqu'on en parle, avec la possibilité de créer des avatars encore plus facilement. Alors les avatars, ce sont ces répliques photoréalistes d'une vraie personne, voilà, comme Algo anime et peut faire dire n'importe quoi. Mm-hmm. Donc ces trucs sont en train d'envahir les pubs et le téléachat. Hein. Dans 5 ans, il restera sans doute plus qu'une minorité d'humains qui te fera l'article sur un set de couteaux de cuisine ou comment faire du pognon avec des bitcoins. Je veux dire, c'est fini tout ça. Mm-hmm. Agen propose désormais de le faire en self-service. Hein. 2 minutes de vidéo de toi, ou de qui que tu veux. Hein. Voilà, ça suffit pour créer un avatar qui parle en 25 langues de n'importe quoi et 24 heures sur 24. Et c'est la version de base, parce qu'il y a plusieurs niveaux de qualité, bon évidemment c'est plusieurs niveaux de prix, hein, ça va jusqu'au 4K qualité studio, et voilà, c'est fabuleux, c'est aussi atroce évidemment, je sais même plus en fait.
C'est tout aussi excitant que rassurant évidemment, peut-être comme l'ensemble de l'information autour de l'intelligence artificielle générative et la vitesse à laquelle ça va. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause pour l'instant, on va attendre quelques jours avant d'en reparler, et en attendant, on va plutôt conclure cet épisode pour parler de jeux vidéo. On commence cette section avec des nouvelles infos croustillantes issues du procès Epic contre Google avec Blizzard Activision King, qui avait, Guillaume, un projet dans les cartons, le développement d'une app mobile de magasin de jeux pour Android, dans un premier temps, une espèce de Steam pour smartphone.
Et oui, Bobby Kotick est un sacré malin. Hein. C'est chez Activision Blizzard King. Ils avaient un projet qui s'appelait Boston, et qui c'était un projet de faire un store, effectivement, pour leurs jeux, déjà, et possiblement après pour les jeux d'éditeurs tiers. Sous Android, en concurrence du coup avec celui de Google, bien sûr, et avec une commission moins chère, un petit peu comme l'Epic Game Store, de 12% d'ailleurs, je crois que c'est pareil. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs via le procès Epic Google, hein, qui n'en finit pas. La boîte mentionnait même de faire quelque chose d'analogue sur iOS, alors comment, je ne sais pas. Grâce à la loi européenne, peut-être,
bah, qui
a forcé Apple à accepter ses magasins concurrents, je ne sais pas. Mais bon, Activision voulait lancer donc un Steam du mobile, à moins que Google ne l'arrose copieusement. Et voilà, qu'il l'arrose bien généreusement, et c'est ce qu'il a fait, hein, et puisqu'ils ont eu un deal de 100 millions de dollars pour d'obscurs accords sur la pub sur YouTube, je sais même, j'ai pas compris. Mais bon, en tout cas, il était bien écrit noir sur blanc dans les documents que le store ne commencerait sa carrière que si Google ne se montrait pas assez généreux. Un store qui serait parti petit pourtant, puisqu'il y avait quand même moins de 70 personnes dans la compagnie qui étaient impliquées dedans, alors que c'est quand même un projet qui a l'air comme ça quand même assez ambitieux. Donc de là à penser que tout ça était une combine de Bobby pour extorquer du pognon à Google, bon... Toujours est-il que c'est quand même un argument en faveur de la thèse d'Epic, hein, selon laquelle Google est prêt à étouffer toute tentative de concurrence en leur enfonçant des liasses de billets dans la bouche, comme ça, bien profond. Bon, écoute, apparemment, ça va.
On visualise l'image. Est-ce que finalement, je n'aimerais pas moi aussi être étouffé avec des liasses d'argent dans la bouche? Pas savoir. C'est bientôt Noël, Guillaume. Et il est loin, le temps où les enfants voulaient des jouets, des joujoux. Cette époque... elle est révolue, vous ne serez pas surpris cette année, peut-être encore plus que l'an dernier, de voir des cartes V-Bucks dans les lettres au Père Noël et au pied du sapin, hein Guillaume?
Ah les jeunes, ils vont me tuer avec leur connerie, parce que bon là il y a un gap générationnel hein, que je sens venir quand même. Alors c'est un sondage en fait sur les cadeaux que veulent les jeunes américains en Noël, donc les gens en question c'est des enfants de 10 à 17 ans. Bon donc c'est des jeunes déjà, hein, bon.
Les ados.
Pas bien malin. Pas bien malin, mais en plus, c'est des enfants américains, donc c'est pas les meilleurs. Mais bref, 72% veulent des jeux vidéo à Noël. Ok, super. Mais seulement 22% veulent des jeux physiques. Le reste veut soit des abonnements, alors c'est probablement PS Plus, Xbox, Game Pass, ou GTA Online, ou Roblox, tout ce que tu veux. Voire carrément des monnaies virtuelles, effectivement, donc des Robux, des V-Bucks. Les enfants d'aujourd'hui, c'est les jeunes de demain, c'est les adultes d'après-demain, c'est les vieux cons d'après-après-demain. Enfin, en tout cas, s'il n'y a pas l'apocalypse avant. Et ils se foutent globalement d'avoir des jeux physiques, en fait. Et même des jeux tout court, finalement, puisqu'avec le Game Pass, tu ne possèdes jamais rien, du tout. Donc les jeunes ont le réflexe Netflix, finalement, pour tout. Donc au mieux, en achetant des maths, mais bon, mais encore. En Angleterre, en 2022, seuls 10% des jeux achetés l'ont été en physique. Donc déjà, tu vires les jeux PC, les jeux mobiles, ça fait déjà un beau morceau qui dégage. Et bon, voilà, donc le physique est en voie de disparition. Hein. Malheureusement, ça paraît acté. Bon, alors il restera toujours une niche de dinosaures pendant quelques années, dont je fais partie, bien entendu. Mais bon, à terme, c'est vrai que d'ici 20, 30, 40 ans, c'est clair que voilà, ça rassemble le tracé, et c'est quand même dommage, parce que tu ne maîtrises plus rien, tu ne possèdes plus rien, tu ne conserves plus rien. Et dernier exemple illustratif en date, qui est pratique, qui n'est pas vraiment en lien avec ça, mais quand même un peu, PlayStation va virer jusque sur vos consoles des émissions de TV dont ils n'ont plus les droits.
Ouais.
Donc même si vous les avez achetées, payées et téléchargées, elles ne sont pas à vous. En fait, hein, vous avez juste un bail de location à durée indéterminée. Et pour des raisons techniques, légales ou économiques, elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Et elles ont même été éliminées directement sur les machines des gens qui les ont achetées. Donc, c'est... voilà, il y a au moins, si vous avez une cartouche, vous gardez la cartouche, quoi. Okay, les gens ne vont pas venir chez vous pour vous piquer la cartouche s'ils n'ont plus les droits.
Dommage. Écoute, dommage. On termine, Guillaume, cette rubrique avec Kiss en avatar virtuel, c'est ça?
Ben oui, les Kiss nous font une ABBA. Ils passent en 3D, ça y est. C'est fabuleux. Alors, d'ailleurs, première info, Kiss existe toujours.
Oui, c'est vrai.
Ben oui, Kiss tourne toujours. Ben oui, Kiss, pourtant, c'est un groupe qui est quand même un peu vieux. Il est un peu vieux, même pour moi, c'est pour vous dire. Ils se sont formés en 73, quand même. Et ils sont toujours là. Voilà, ils ont conclu une tournée, une tournée de 4 ans. Là, ils viennent de conclure leur dernière tournée. Mais bon, 50 ans de carrière, qu'est-ce que c'est? Que dalle. Puisqu'ils peuvent vivre éternellement, comme dit l'un d'eux. Éternellement en 3D, recréé en image de synthèse par ILM. D'ailleurs, je ne sais pas à quel point c'est du précalculé ou du temps réel, d'ailleurs. Enfin, à la fin de leur concert, ils ont passé une vidéo avec les nouveaux Kiss, c'est-à-dire en 3D, hein, donc sur écran géant, en hologramme, tout ce que tu veux. Là, ça avait l'air d'être du précalculé, mais est-ce qu'ils vont faire du temps réel à un moment? Parce que ILM utilise Unreal Engine à l'occasion. Donc, on pourrait même imaginer qu'il y ait du temps réel, des interactions. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Quoi qu'il en soit, les avatars de Kiss vont continuer à tourner et à chanter, entre guillemets, hein, sans plus avoir à se préoccuper de détails triviaux comme l'âge, les prothèses de hanches ou la mort. Finalement, c'est quoi la mort? C'est un état d'esprit, après tout. Hein.
Ouais.
Donc voilà, des gens paieront pour voir des Kiss synthétiques sur une scène. Enfin, a priori, ils vont payer, sans doute, parce qu'on n'en a plus parlé vraiment, mais sachez que la tournée ABBA, la tournée des ABBA synthétiques, hein, oui, des jeunes ABBA, donc des jeunes ABBA synthétiques, marche très bien. Elle a déjà récolté 250 millions de recettes jusqu'ici. C'est pas trop mal. Hein.
Magnifique. Eh bien, écoute, tant mieux pour eux et tant mieux pour vous qui êtes à jour de l'actualité tech de cette semaine avec cet épisode de Tech Café. On espère évidemment que vous avez passé un bon moment. Si jamais c'est le cas et que vous ne soutenez pas encore Tech Café, je vous invite à aller sur patreon.com/techcafé. Vous savez que vous pouvez également déposer des avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict et ils permettent de redorer l'image de Tech Café, non pas qu'elle avait été dévalorisée, elle n'avait pas été ternie, mais de contribuer à valoriser comme il se doit l'image de Tech Café sur les apps de podcast pour que si jamais quelqu'un découvre Tech Café, il sache que c'est un podcast de grande qualité et qui divertit et qui informe. Et bien entendu, vous pouvez également nous retrouver à titre individuel. Et évidemment, on va commencer par toi, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Ah ben moi, je vais me renseigner chez ILM pour voir combien ça ferait pour faire des avatars de nous qui feraient des podcasts pour l'éternité. Hein,
c'est ça.
Et d'ailleurs, si possible, j'aimerais commencer tout de suite. Hein. Je n'ai pas trop envie d'attendre 70 ans comme les Kiss.
T'as raison. Ça nous laisserait plus de temps pour beaucoup d'autres choses. Et on serait moins pénalisé par les maux de gorge comme on a parfois.
Exactement. Sinon, il y en a encore 30 ans à couvrir les conneries d'Elon Musk.
Oh, Mais est-ce qu'il tiendra lui-même jusque-là, Elon Musk ? Va savoir. C'est pas mince. Bon, écoute, on verra. Allez, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux avec le pseudo Guillaume Vendée, sauf Blue Sky, où c'est guillaumevendée.fr. Mais vous me retrouvez aussi sur Mastodon, bien entendu. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un épisode supplément de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.